Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour tout le monde. En ce mois de septembre, nous avons à cœur, comme toujours, de carpere diem, de cueillir le jour et de vivre au présent. Mais de temps en temps, il faut faire des petites entorses sur la spirale du temps. Et aujourd'hui, nous allons faire une sorte de petit retour vers le futur. Retour d'abord sur le forum du Livre Péplum à Nîmes, où le 22 juin dernier, nous avons fait la connaissance de notre invité, qui est Daniel Delattre et que je salue tout de suite. Bonjour Daniel.
Bonjour Martine.
Donc nous avons fait sa connaissance, mais je le connaissais bien sûr de réputation, puisque ce monsieur dont nous allons parler est extrêmement connu, notamment pour le sujet pour lequel il était invité, à savoir... une exploitation, une reconstitution, une traduction de ces fameux manuscrits d'Herculanum de la Villa des Papyrus. Donc, ces manuscrits qui sont presque vieux comme le monde et qui avaient été figés dans la cendre depuis l'éruption de 79. Et puis, lorsqu'on les a retrouvés, c'est de tout cela qu'on parlera dans quelques minutes au XVIIIe siècle, eh bien, on avait à cœur de les faire parler, mais il semblait que ce soit désespéré puisqu'ils étaient brûlés. Donc, on va avec Daniel entamer ce petit parcours où il va nous expliquer comment, d'une manière, on ne peut pas dire miraculeuse, car la science a fait son œuvre aussi, mais d'une manière inattendue, inespérée, on a pu renouer avec le texte, une partie du texte de ces papyrus. Alors d'abord, un petit excursus pour parler de Daniel Delattre, qui est, c'est son titre officiel, directeur de recherche émérite, spécialiste de papyrologie et de philologie. Il a fait énormément de choses, hein, je ne vais pas tout énumérer ici. Et il est extrêmement connu, je l'ai dit, pour l'étude des papyrus d'Herculanum. Alors avant de parler de ces fameux papyrus d'Herculanum et de la manière dont ils ont été redécouverts et ensuite travaillés, j'aimerais vous demander, Daniel, comment vous êtes arrivé à la papyrologie, à la philologie, au grec, qui est votre langue, pas natale, mais quand même bien familière.
Eh bien, ce n'est pas très compliqué. J'ai, étant professeur agrégé de lettres classiques, j'ai entamé une thèse tout en enseignant en lycée que je voulais à cheval sur le grec et le latin. Et donc, j'avais pris un sujet de thèse qui m'amenait à parler de la philosophie épicurienne vue par Cicéron. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait que je restreigne mon sujet à la théologie épicurienne. Et là, je me suis rendu compte qu'un certain philosophe épicurien contemporain de Cicéron, qui s'appelle Philodème et originaire de Gadara en Syrie, donc c'est un grec, eh bien ce Philodème avait écrit sur les dieux et c'était pour moi un passage essentiel dans ma thèse que de rencontrer Philodème, puisque Cicéron était contemporain et ami de Philodème. Voilà, et donc je n'ai pas eu beaucoup le choix, j'ai voulu aller travailler à Naples, au Centre international pour l'étude des papyrus d'Herculanum. J'ai eu une bourse d'un an et j'y ai travaillé non pas sur les dieux, qui était un texte réservé à un collègue, mais sur... la musique de Philodème, toujours Philodème, voilà. Et c'est comme cela que j'ai rencontré la papyrologie d'Herculanum après une formation lors de mon année de bourse sur place et puis un premier début d'édition d'une partie de ce qui se révélera le livre 4 de la musique de Philodème que j'ai fini par reconstituer dans sa longueur et que j'ai édité finalement au bout de 23 années de travail continu.
Donc,
Voilà.
beaucoup de travail, mais une belle amitié avec cette rencontre que vous avez faite et ce thème de la musique qui vous poursuit aujourd'hui encore. Avec les
Oui,
papyrus, oui.
on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout la papyrologie d'Herculanum et Philodème, l'épicurien Philodème,
Oui.
qui sont mes,
Vos
disons, mes centres d'intérêt majeurs. Hein, et j'ai en responsabilité une mission de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, hein, qui fait partie de
Oui.
l'Institut de France, pour la mise en valeur de deux papyrus d'Herculanum de Paris, numéro 1 et numéro 2, qui ont été massacrés à Naples en 1966-67, malheureusement. Il s'agit du papyrus d'un papyrus de Philodème, encore une fois, et appartenant à la somme des vices et vertus opposées, et traitant plus particulièrement de la calomnie. Je travaille avec ma petite équipe sur ce texte depuis maintenant 21 ans. Et nous essayons de publier des morceaux de colonne au fur et à mesure de notre remontée depuis la fin du rouleau vers le début. Et ça s'avère vraiment très acrobatique.
Alors, c'est l'aventure de toute une vie, hein. C'est un long cheminement et une grande passion. Est-ce que cette passion, elle avait démarré, puisque je vous ai dit qu'on allait sans arrêt faire des liens entre le passé, le présent, le futur, est-ce que cette passion, elle avait démarré sur les bancs de l'école ou ça a été bien après?
Non, ça a été tardif, hein, puisque relativement tardif, puisque j'ai démarré cette thèse qui n'a jamais vu le jour sur la théologie épicurienne vue par Cicéron en début de carrière de professeur, donc j'avais 24-25 ans. Ouais.
Mais alors,
Et donc la rencontre avec Philodème a été absolument déterminante pour la suite des opérations.
auparavant, bon, devenir agrégé de lettres classiques, ça n'est pas anodin. Est-ce que votre passion, alors apparemment pour le grec, mais sans doute aussi pour le latin, vous l'aviez beaucoup pratiqué à l'école ou pas du tout, enfin un petit peu modérément, passionnément, à la folie?
J'ai eu la chance d'être élève à une époque où l'enseignement du latin et du grec était encore systématique, avec des classes relativement nombreuses, même en grec. Et donc j'ai eu une formation au latin dès la sixième et au grec dès la quatrième.
Alors, c'était dans
Donc
quelle
c'est
région que vous avez fait
vraiment.
vos études?
Je n'ai pas bien compris la
Vous avez
question.
fait vos études dans quelle région? Quand vous étiez petit, vous étiez où à l'école?
Je suis du Nord, je suis natif de Lille et attaché à la Flandre telle que Lille la présente aujourd'hui.
Donc, tout ça, ça fait un monde qui se tisse progressivement. Et donc, cette thèse, vous l'avez expliquée, cet amour pour ce grand savant. Et puis, ces papyrus d'Herculanum, donc, qui avaient été, on peut dire, retrouvés au XVIIIe siècle, mais considérés comme perdus.
Effectivement. En 1752, l'exploration par galeries de mines et tunnels de ce qu'on a appelé par la suite la Villa des Papyrus ou Villa des Pisons, puisqu'il semblerait
Oui,
bien que ce soit
cette
cette grande
famille, oui.
famille aristocratique romaine qu'elle est appartenue, eh bien, c'est en 1752 qu'on a découvert les premiers rouleaux de papyrus carbonisés. Mais il a fallu attendre 1754 pour qu'on puisse découvrir ce qui a été appelé la bibliothèque d'Herculanum ou la bibliothèque de Philodème, pour découvrir donc dans une petite pièce 600 ou 700 rouleaux de papyrus carbonisés. C'est pas tout à fait, ce sont pas tout à fait des papyrus brûlés. Hein. Ils ont été figés dans leur partie extérieure qui est quasiment soudée. Et les parties centrales ont pu être, dans un certain nombre de cas, déroulé à l'aide de la machine mise au point par un religieux du Vatican qui s'appelait Antonio Piaggio. Et cette machine a permis de dérouler un certain nombre de fins de rouleau. Il faut se dire que ces fins de rouleau représentent environ un quart à un tiers du rouleau d'origine. Et ceux qui ont été le mieux déroulés donnent des textes extrêmement cohérents, qu'il faut bien évidemment reconstituer parce qu'il y a quand même beaucoup
De
de trous,
lacunes, oui.
mais malgré tout, on en a tiré dès 1754 et tout au long du 19e siècle, on a pu en faire des éditions plus ou moins satisfaisantes parce que les éditeurs avaient beaucoup d'imagination, n'étaient pas toujours excellents en grec et proposaient de temps en temps des choses absolument farfelues.
Oui,
Bon,
parce qu'il
et
faut bien
puis ils
dire à nos
disposaient de.
auditeurs que on a beau avoir trouvé ces papyrus, ces volumens à Herculanum, la langue de référence, c'était bien le grec. Et nous avions
Oui,
affaire
bien
à.
évidemment, hein, nous ne l'avons pas encore dit, mais il s'agit de papyrus grec, ce qui n'est pas du tout étonnant, puisque le support papyrus, qui était une production monopolistique des pharaons d'Égypte, eh bien, ce papyrus est le support d'écriture de toute l'Antiquité, quelle que soit la contrée. Donc, papyrus égyptien d'abord, c'est ce qu'on entend habituellement par papyrus,
Oui.
mais aussi papyrus grec, papyrus latin et même papyrus arabe à une époque ultérieure.
Oui,
Il faut
et il y a,
attendre,
bon,
on va dire.
on n'aura pas le temps de rentrer dans ce détail-là, mais il y avait même des tas de qualités de papier, puisque papier dérive du mot papyrus, différentes à Rome, des papyrus d'Auguste, des papyrus de Claude, enfin bref. Donc, toute une.
Exactement, hein, des formats différents,
Voilà.
effectivement, et des qualités aussi
Voilà l'épaisseur du
de plus ou moins
papier.
raffinées.
Voilà, exactement. Alors, avant de rentrer dans cette expérience de cette redécouverte des papyrus, hein, parce que j'insiste bien, ils ont été carbonisés. Ensuite, ils ont été retrouvés au XVIIIe siècle, retravaillés. Et là, nous arriverons donc à parler du XXIe siècle d'ici peu. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez, à votre avis, ces papyrus, ils dataient de quand? Donc, ils ont été brûlés en 79, mais est-ce qu'on sait quand ils avaient été rédigés, stockés, etc.?
Donc, nous avons un terminus antequem qui est la date de l'éruption du Vésuve de 79 de notre ère. Bon.
Oui.
Philodème est contemporain de Cicéron. On n'a pas ses dates de naissance ni de mort, mais on peut penser qu'il était né autour de 110 avant notre ère. Et qu'il serait mort probablement après 40 avant notre ère. Voilà. Donc, une très grande partie de la bibliothèque est constituée d'œuvres de Philodème, ce qu'il appelait lui-même des commentaires sur différents sujets, principalement des sujets moraux, mais aussi des sujets théologiques. Et donc, les papyrus en question datent de l'époque de Philodème ou légèrement après sa mort pour certains. Hein.
Donc, des papyrus qui datent de
Mais
l'époque de
il
la
y a aussi,
République,
oui, pardon.
carbonisés sous l'Empire, et voilà qu'ils ressurgissent pour notre plus belle compréhension au XXIe siècle. On va marquer une petite pause musicale. D'ailleurs,
Très bien.
je précise que j'ai choisi la bande-annonce originale de ciné-concert Les derniers jours de Pompéi de Mario Caserini et Ettore Rodolfi. Et que ce sont des petits morceaux, parfois il y aura des blancs entre eux, qui accompagnaient le film muet Les derniers jours de Pompéi de 1913. On écoute et après on retrouve Daniel Delattre. À tout de suite, Daniel. Deuxième partie de l'émission Antiquissimo consacrée au papyrus d'Herculanum et au travail colossal que fit et que fait encore Daniel Delattre pour porter à notre compréhension le contenu de ces papyrus. Alors, au mois de mai 2024, un article de Pour la Science titrait « L'IA a fait parler les papyrus d'Herculanum » et expliquait qu'il y avait une conjonction de bonnes, belles volontés, de belles intelligences pour arriver au résultat que l'on sait. Alors expliquez-nous, Daniel, comment ça s'est passé, comment on a pu faire ressurgir le contenu, une partie du contenu de ces papyrus.
Volontiers, Martine. C'est à la fin de 2023 que un défi intitulé Vesuvius Challenge américain a fait paraître sur le site du Vesuvius Challenge, scrollprize.org, un résultat absolument extraordinaire. Une quinzaine de colonnes ou de partie de colonne finale d'un rouleau d'Herculanum et nous est apparu plus ou moins lisible, mais disons plutôt plus que moins lisible, grâce à l'utilisation conjointe des technologies mises au point par le professeur Brent Seales de l'Université de Lexington depuis un certain nombre d'années. Et du recours qui était un peu celui de la dernière chance à l'intelligence artificielle. De nombreux geeks se sont bousculés pour essayer de remporter le grand prix de ce défi. Et c'est un jeune spécialiste d'imagerie et d'intelligence artificielle qui s'appelle Je suis désolé, je ne
Vous allez le
retrouve plus son
retrouver.
nom immédiatement.
Oui, il
Mais
va revenir après, c'est pas grave.
un jeune homme qui travaille à Berlin pour le moment et qui a réussi dans un premier temps à faire apparaître des portions de quatre colonnes consécutives et qui, à l'aide de deux autres compétiteurs, a réussi à faire apparaître ces 15 dernières colonnes d'un rouleau d'Herculanum. Et même si nous n'avons pas le titre final, il s'agit d'une œuvre sans aucun doute de Philodème de Gadara. Voilà. Donc c'est une espèce de miracle auquel nous avons assisté, puisque des lignes de lettres grecques nous sont apparues, et ces lignes s'inscrivant dans des colonnes parallèles. C'est absolument extraordinaire. C'est la première fois qu'on avait autant de textes lisibles d'un coup. Alors, il reste problématique de dérouler virtuellement et de faire apparaître le texte d'un certain nombre de spires, des rouleaux, quand ces spires sont beaucoup trop fusionnées, si je puis dire. Ça introduit des parties tout à fait brouillées, mais avec les éléments bien lisibles des lignes conservées, on arrive plus ou moins à reconstituer un texte qui a du sens.
Alors, ce qui est très curieux, c'est que
Ouvrir,
ce n'est pas l'œil
je
qui,
veux dire,
oui,
oui.
ce n'est pas l'œil qui lit ces lettres, c'est quelque part l'épaisseur, la rugosité du papier qui recrache les lettres.
Oui, on peut dire ça comme ça, hein. Et nous n'avons pas pour le moment, nous sommes dans une boîte noire encore, c'est-à-dire que nous n'avons pas possibilité de vérifier par une autre technologie la réalité de ces lettres virtuelles. Mais le texte qui est fourni quand il est bien lisible de manière un peu continue donne la certitude qu'on a affaire à un texte grec cohérent. Et donc, le défi qui consistait à rendre visible un texte à l'intérieur d'un rouleau carbonisé d'Herculanum, eh bien, ce défi a été remporté. Alors maintenant, il s'agit d'essayer d'améliorer encore les techniques. Mais on peut dire qu'au début du 21e siècle, eh bien, il y a eu un miracle qui s'est opéré en matière de papyrologie d'Herculanum.
Et c'est une collaboration donc de choses artificielles comme l'intelligence, l'informatique, tous ces moyens modernes et des moyens
Oui.
humains aussi extraordinaires. C'est la combinaison des deux qui aboutit à faire la lumière sur ce qui était devenu noir.
Voilà, et il est bien évident que je n'en ai pas encore parlé, mais vous m'aviez présenté comme un papyrologue, et effectivement, pour pouvoir déchiffrer et éventuellement tenter de traduire ce qui a été mis en lumière dans ces 15 dernières colonnes d'un rouleau, eh bien, les papyrologues, sous la forme d'une petite équipe de 5-6 membres, dont j'ai eu la chance de faire partie, eh bien, papyrologues italiens, français, mais aussi britanniques. Hein, et voilà.
Donc cette équipe continue de travailler, j'imagine.
Cette équipe a travaillé ensemble pour donner un premier état du contenu de ces colonnes. Ça a été publié dans la revue annuelle du Centre international pour l'étude des papyrus d'Herculanum, revue annuelle qui s'appelle les Chronaceae Herculanaesi.
Alors, j'insiste, parce que l'émission touche à sa fin, j'insiste les auditeurs à aller sur le site des Belles Lettres où ils vous retrouveront en 4 petites séquences, je crois, formidables, où vous expliquez par le détail toutes ces découvertes et vous rentrez dans la précision que nous n'avons pas pu avoir ici en si peu de temps. Donc, je les incite à taper sur le site des Belles Lettres et demander les papyrus d'Herculanum et ils vont tomber sur des petites vidéos faites remarquablement faite par Daniel Delattre. Merci beaucoup, Daniel.
Les vidéos, ce ne sont pas moi qui les ai faites. Hein.
Oui, mais...
C'est un collaborateur des Belles Lettres qui est très habile,
oui.
Qui a fait ça fort bien. Éventuellement, je signale également qu'on peut trouver des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus techniques sur le site de laibl.fr. Hein, Académie des inscriptions et belles-lettres.fr sous la rubrique Papyrus d'Herculanum. Là,
on aura
aussi pas mal d'informations.
Le sommet. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour votre passion et merci pour cette émission qui nous donne envie d'en connaître encore davantage. À bientôt.
Merci beaucoup, Martine.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.